Si je devais retenir trois choses que j'ai apprises de ma carrière de haut niveau jusqu'à aujourd'hui, je commencerais par dire qu'il faut avoir le courage de se construire une carrière sur mesure, indépendamment de ce que l'on croit que les gens pensent ou attendent de nous. Ensuite, je crois qu'il faut accepter l'impermanence des choses, parce que tout peut aller très vite. Enfin, je garderai en tête que peu importe ma capacité de départ à faire quelque chose, je peux toujours m'améliorer et grandir. Salut tout le monde, c'est Melvin. Et bienvenue sur On Papers. Ici, on parle de sport, de handball, de féminin. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le micro seul pour répondre à vos questions. C'est pas l'exercice le plus évident pour moi, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de regrouper vos questions sous forme d'enseignements que j'ai pu retirer en fait de ma carrière jusqu'ici. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute. La première chose sur laquelle j'avais envie de revenir, c'était sur le courage de se construire une carrière sur mesure. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur ma capacité à jongler entre le sport, les études, mais aussi la gestion du podcast, et puis à un moment donné, je vendais aussi des illustrations en ligne. Cette question m'a fait beaucoup sourire parce que je sais à quel point j'avais du mal en fait à accepter le fait d'être multipotentialiste et d'aimer faire plein de choses à la fois. D'un côté, j'avais grandi avec l'idée selon laquelle pour faire du sport de haut niveau, il fallait avoir une bouée de secours. Et donc, comme j'adorais les études, c'était pas compliqué pour moi de me dire que j'allais continuer à faire des études en parallèle de ma carrière, parce que c'était une manière pour moi d'être à la fois équilibrée et de me sentir en sécurité. Et de l'autre côté, j'avais un biais qui consistait à croire que les autres, à savoir mes entraîneurs ou les personnes avec lesquelles je m'entraîne et que je respecte, savent mieux que moi comment gérer une carrière et ce que signifie être une joueuse professionnelle de handball. Par conséquent, je vivais d'une certaine manière un léger conflit intérieur. J'étais à la fois passionnée par tout ce que je faisais, c'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment un kiff de pouvoir passer de l'entraînement à la salle de classe, à un atelier d'écriture ou un atelier de peinture ou un atelier de couture. Et en même temps, quand certaines personnes me disaient de manière tout à fait innocente, je crois, tu ferais bien de te demander quand est-ce que tu vas arrêter tes études, parce que si tu aspires à faire ça, alors ça risque d'être difficile de continuer à faire les deux en même temps. Ou fais gaffe, hein, parce que là, tu commences à faire un peu trop de choses et c'est pas forcément top pour la poursuite d'une carrière à haut niveau. Et moi, quand j'entendais ça, je me sentais à la fois perplexe et j'avais tendance à donner raison aux gens qui me disaient ça. Plutôt que de me dire, qu'est-ce qui m'inspire moi, quelles sont mes aspirations et qu'est-ce que je veux moi pour ma carrière, je me disais, ah ouais, peut-être qu'ils ont raison. Parce que, effectivement, si j'aspire à être, je sais pas moi, en équipe de France, aux Jeux Olympiques, alors je devrais pas faire ça. Sauf que, à ce moment-là, je me déconnectais complètement de moi et de mes propres besoins et de mes propres envies et de ce qui me motivait vraiment et ce qui me passionne vraiment et ce qui fait que je me lève le matin avec la banane pour essayer de démontrer à ces personnes que faire ce que je faisais tout en étant performante au handball n'était pas impossible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez délicat. Parce que quand tu donnes trop de place à ce que tu crois que les gens attendent de toi, alors tu t'oublies un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé d'une certaine manière. Parce que je pense que la frontière est très fine entre je fais des choses qui me passionnent parce que ça me passionne tout simplement, et je les fais parce que j'en ai marre d'entendre que c'est pas possible. Pendant longtemps, j'en ai eu marre d'entendre que c'était pas possible de faire du sport de haut niveau et des études de haut niveau. Donc d'une certaine manière, même si j'adorais mon parcours à Sciences Po, pour moi, c'était aussi une vraie manière de démontrer que c'était possible de le faire en y étant. Le problème avec cette source de motivation-là, c'est qu'elle est vraiment très très vite épuisable. Parce que personnellement, quand je me suis rendu compte que c'était effectivement possible de tout faire à la fois, c'était ma réalité, donc c'était possible. Je me suis aperçu que j'avais un peu moins d'énergie, que du coup, les choses avaient perdu un tout petit peu de sens pour moi. Parce que c'était fait, mais du coup, qu'est-ce qui me motivait maintenant ? Qu'est-ce que je voulais pour moi ? J'étais vraiment déconnectée en fait, de ce qui m'animait vraiment, de ce qui me passionnait. Et ça m'est arrivé notamment pendant ma dernière année de jeu à Paris, quand j'ai eu mon nouvel entraîneur, Yacine Messaoudi. Souvent, il me disait, Melvin, je sens qu'on n'est pas connecté, là, qu'on n'est pas synchronisé. Des fois, j'arrive pas à comprendre en fait, où tu te trouves, pourquoi tu n'es pas là dans un match, etc. Et aujourd'hui, par rapport à tout ça, je fais un peu la maligne parce que j'ai appris plein de choses, du coup, mais je vais vous les partager. D'abord, je me suis bien ancrée dans le cerveau que je suis libre de rêver et d'aspirer à ce que je veux. Il n'y a pas une aspiration qui est meilleure qu'une autre. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont demandé quel était mon épisode préféré du podcast. Il y en a beaucoup que j'ai énormément apprécié, mais récemment, je dois dire que l'épisode avec Djeneba Tandjian m'a permis de cristalliser cette idée. L'idée selon laquelle ta valeur ne réside pas dans ton niveau de performance. La vraie valeur pour moi et la vraie réussite, c'est plutôt de vivre une vie intentionnelle, une vie qui a du sens pour moi et qui surtout me motive et me rend heureuse le matin quand je me réveille. Ensuite, par rapport aux remarques que les gens font, déjà je me suis dit une chose, c'est que souvent les gens sont quand même bien intentionnés. Et même s'ils ne l'étaient pas, ce n'est pas vraiment le problème. Parce qu'il y a plein de filles qui ont entendu plein de remarques dans leur carrière et qui pourtant ne se sont pas limitées dans l'expression de leur potentiel. Et donc là, je me suis bien rendu compte qu'en fait, la seule personne que je pouvais vraiment changer, c'était moi et ma perception que j'avais de ces remarques. Au fond, j'étais pas obligée de leur donner foi. Je pouvais plutôt choisir de rester connectée en fait à ce qui me parle à moi. Et si pour moi, être joueuse de handball, c'est avoir un podcast à côté, adorer lire tout le temps, faire des études, vouloir être maman, enfin, quoi que ce soit en fait qui fait que mon parcours m'est propre. Et qui fait que je suis bien, que je suis épanouie et que ma carrière a du sens pour moi en tant qu'être humain, alors ça vaut le coup d'être vécu comme ça. Indépendamment de ce que disent les gens et de ce que je crois que les gens attendent de moi. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire mieux que moi qu'est-ce qui fait mon équilibre et qu'est-ce qui fait que je suis bien et épanouie en tant que joueuse. Et c'est la même chose pour les aspirations. Ce qui me permet en fait de conclure sur mon dernier point, qui est que plus je vais vivre une vie intentionnelle, choisie, où je vais suivre en fait mes aspirations, mon cœur, ce qui fait que le matin je me réveille et que j'ai le sourire, plus je vais être armée et motivée face aux difficultés de la carrière et de la vie tout court, et surtout face aux impermanences des choses. Ce qui me permet de faire le pont avec ma deuxième partie. Quand je suis arrivée à Metz, je me souviens que je me suis installée dans la ville et que je l'ai très vite beaucoup aimée. Et je me souviens aussi que j'ai eu une vraie, vraie grosse résistance au changement. C'est-à-dire que moi, en arrivant dans l'équipe, j'appelais mes meilleurs amis le soir et je leur disais mais je vais pas avoir d'amis dans cette équipe. C'est-à-dire que je partais avec l'idée selon laquelle je n'allais pas appartenir au groupe. Et ça, c'est ce que j'appelle tout simplement de la résistance au changement. C'est-à-dire que les choses sont nouvelles, sont impermanentes. Et en fait, le problème, c'est pas le changement en lui-même, mais c'est plutôt la réception qu'on en a et la manière dont on interprète les choses. Et je retiens aujourd'hui que c'est important d'accepter l'inconfort parce que parce qu'il fait tout simplement partie de la vie, c'est comme ça. Mais bon, une fois le cap passé de je vais avoir des amis et puis je vais réussir à comprendre le projet de jeu et à jouer correctement dans cette équipe, je me suis blessée, toute seule, en contre-attaque, à l'entraînement, à la veille d'un match. Alors, cette blessure, c'est vrai que physiquement, elle a été vachement douloureuse au moment de la chute, et j'en retiens plusieurs choses. J'avais des croyances, encore une fois, qui étaient assez erronées sur ce que je devais être en tant que sportive de haut niveau et en tant que joueuse professionnelle. Le jour où je me suis blessée, j'étais tombée malade, en fait, dans la nuit. J'avais averti mon staff, etc. Sauf que j'avais grandi avec encore une autre croyance selon laquelle quand on est malade, tant qu'on n'a pas la crève, on vient s'entraîner. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'ai apprises grâce à ma rupture du ligament croisé, c'est que quand on est malade, on ne s'entraîne pas, Covid ou pas Covid. Parce que pour moi, en fait, si c'était pas le Covid, bon c'est pas grave, je peux quand même m'entraîner. Sauf que ce jour-là, je me suis entraînée avec un pull, j'avais chaud, froid à tous les instants de l'entraînement. Et en soi, c'est pas parce que tu es malade que tu vas forcément se blesser. Simplement, je pense que de toute manière, quand tu es malade, ton système immunitaire ne répond pas de la même manière que en temps de paix. Donc, il faut savoir aussi se ménager et savoir s'écouter suffisamment pour expliquer à son staff qu'on n'est pas dans un état qui permet l'entraînement. Mais ça, pour moi, c'était pas vraiment concevable parce que je ne concevais pas l'idée selon laquelle, en fait, quand je suis malade, je ne dois pas m'entraîner. Aujourd'hui, c'est une idée que je fais mienne et que je compte vraiment faire en sorte d'appliquer dans ma carrière parce que je pense vraiment que c'est stupide de s'entraîner quand on est malade aujourd'hui. Et je dis ça parce qu'on m'a beaucoup demandé de parler de ce que j'ai appris grâce à ma rupture du ligament croisé. Alors c'est vrai que je dis souvent grâce à ma rupture du ligament croisé, et je dis souvent que c'est une des plus belles périodes qui m'est arrivée dans ma vie. Mais il faut pas se méprendre. C'est pas ma blessure en elle-même que j'appelle une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Ça m'a fait mal, ça m'éloigne des terrains pour très longtemps. Je me suis rompu le croisé, je me suis abîmé les deux ménisques, je me suis pété un petit bout d'os et tout. Enfin vraiment, je me suis fracassé la jambe quoi. Mais ce que j'appelle une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie, c'est plutôt l'espace-temps que m'offre en fait cette blessure pour développer ma conscience de moi-même. Alors ça semble un peu mystique comme ça, mais en fait j'ai tout simplement commencé une formation de développement personnel à partir du moment où je me suis rompu le ligament croisé. En fait, j'ai parlé avec une amie et elle m'a présenté un outil qui s'appelle l'Ennéagramme, qui est un outil de connaissance de soi, mais à la fois des autres, grâce auquel j'ai pu vraiment comprendre certains de mes mécanismes. Pour vous faire une caricature, j'étais vraiment le genre de personne qui s'identifiait à ce qu'elle faisait. Je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la première leçon, qui était d'avoir le courage de se construire une carrière sur mesure. Pour moi, j'étais, d'une certaine manière, ce que je faisais. Mes réalisations, c'était la plus grande partie de ma vie. Mes études, ma carrière professionnelle de handballeuse. Et en soi, je pense que c'est pas un mal. Simplement, quand tu considères que tu es ce que tu fais, alors si tu te rates, si tu rates ce que tu fais, alors d'une certaine manière, tu rates ce que tu es. Et c'est là que ça peut devenir un problème, en termes d'estime de soi et de confiance en toi. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'étais, avant de me blesser, je n'étais pas capable du tout d'apprécier mes réalisations. Parce qu'en fait, à chaque fois que je réalisais quelque chose, c'était ma personne qui était en jeu. C'était pas juste le fait de réussir à faire quelque chose ou pas. C'était le fait de retrouver une certaine valeur et estime de moi dans ma capacité à réaliser des choses et à accomplir des choses. Mais pour vous donner un exemple de la manière dont je pense aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui joue au handball en amateur et qui à côté travaille, et qui vit la vie qui l'inspire, bah m'inspire tout autant que la personne qui fait les Jeux Olympiques et qui vit une vie qui l'inspire. Tout simplement parce que le niveau de performance ou les réalisations ne disent rien de la valeur en fait de la personne en tant que telle. Ça dit simplement de ce que la personne a pu accomplir un jour, à un instant donné, dans sa carrière. Mais ça dit rien de plus sur la valeur de la personne, sur son humanité, sur sa capacité à avoir des relations interpersonnelles riches et authentique ou des choses comme ça. Et c'est vraiment une des grandes réalisations que j'ai pu faire grâce à ma formation à l'Ennéagramme. Un des outils qui m'a beaucoup aidée pour ça a été de retrouver un certain niveau d'équilibre entre la gratitude et le fait d'avoir des aspirations pour plus. C'est-à-dire que quand tu es capable de réaliser certaines choses, d'atteindre un certain niveau de performance, de satisfaire en fait quand même ta volonté d'accomplir des choses, parce que c'est pas un mal en soi de vouloir faire des choses bien. Il faut savoir aussi apprécier ces choses-là et faire preuve de gratitude. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas vraiment faire. C'est-à-dire que j'étais un peu incapable de me dire, OK, là, j'ai réussi à atteindre tel objectif que je m'étais fixé, j'ai appris plein de choses sur la route et c'est génial. Bah ça, j'y arrivais pas trop. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Mais pour moi, ce qui était compliqué en fait dans le fait de faire ça, c'était de me dire, ouais, mais non, parce qu'après, tu vas arriver dans une espèce de suffisance et tu vas arrêter de travailler. En fait, c'était une conclusion bien trop rapide parce que l'un n'empêche pas forcément l'autre. Le fait de faire preuve de gratitude, c'est juste se dire, OK, j'ai déjà ça, c'est vraiment bien, mais je veux un peu plus. Et au pire, si j'ai pas plus, bah c'est pas grave parce que j'aurais fait de mon mieux et que j'aurais appris sur le chemin. Et ça, voilà, c'est un état d'esprit qui est assez neuf chez moi. Après m'être rompu le ligament croisé et avoir débuté ma formation en développement personnel, j'ai vécu une espèce de haha moment à la suite de l'écoute de certains podcasts, de mes exercices de coaching, etc. Je me suis dit, d'une, je suis vachement amoureuse de l'idée d'être en vie, et de deux, j'ai pas envie de gâcher ma vie à vouloir coller à une image qui correspondrait à l'image fantasmée de ce que doit être une joueuse professionnelle de handball et de ce que doit être un être humain qui réussit. Ma vraie réussite, ce sera d'être capable de me construire une vie intentionnelle, une vie qui a du sens pour moi, et où finalement, ce que les gens pensent, bah, m'aide juste moi à avoir des idées, mais ne détermine pas la trajectoire de ma vie. Et d'ailleurs, je me suis aussi dit que c'était une certaine exagération de soi que de penser que les gens te regardent. Mais bon, ça, je m'en veux pas parce que c'est des croyances et c'est des choses qu'il faut défaire et qui se défont avec le temps. Je pense qu'on est tous un petit peu soumis au regard des autres et que En fait, tout dépend après de la manière dont on arrive en fait à jongler entre ce qui nous inspire vraiment nous et ce que l'on croit que les gens attendent de nous. Et je dirais que d'une certaine manière, ma rupture m'a permis de me reconnecter très profondément au sens que je voulais donner à ma vie et surtout à ma capacité à apprécier les choses. C'est-à-dire que j'avais, ok, mon genou qui était rompu, mais j'avais aussi en tête le truc de me dire, bon bah chaque jour, je vais essayer d'être un peu meilleur. Et effectivement, quand tu commences dans un lit d'hôpital et que 3 mois plus tard tu marches et que 6 mois plus tard tu cours, bah la gratitude c'est important. Parce que tu te dis, ok, là j'ai déjà réussi à réapprendre à marcher plus ou moins correctement. Maintenant je veux plus. Maintenant je veux pouvoir courir. Et la prochaine étape c'est maintenant je vais pouvoir repasser sur un terrain de handball et jouer et m'éclater et prendre du plaisir. Et ensuite ce sera, bon, maintenant que je suis sur le terrain de handball, comment je fais pour redevenir performante? Comment je fais pour me connecter avec les filles de mon équipe, mon staff, pour gagner des matchs, gagner des titres. Enfin voilà. Pour faire simple, la grosse, grosse leçon que j'ai retenue de ça, c'est vraiment l'idée de me dire que je suis complètement amoureuse en fait de l'idée d'être en vie. Au-delà de tout, ce qui m'anime le plus, c'est de me dire, ok, moi je me lève le matin et je suis contente d'être là. Non pas qu'avant, je considérais que c'était pas cool d'être en vie. Simplement, avant, je le célébrais pas. Et maintenant, c'est vrai que le matin, quand je me lève, je crois que c'est un peu la fête dans ma tête parce que c'est. Voilà, j'adore cette idée d'être là. Ensuite, je dirais aussi que grâce à ma rupture du ligament croisé, j'ai réappris à apprendre. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup, beaucoup plus la manière dont je m'entraîne et dont j'envisage en fait l'apprentissage que ce que je pouvais faire avant et notamment quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans. J'avais un rapport assez particulier avec l'apprentissage. J'ai eu une éducation où, en fait, ce qui comptait beaucoup, c'était vraiment le résultat. Même si moi, en fait, d'une certaine manière, j'aimais beaucoup les processus créatifs, les processus d'apprentissage, etc. Au fond, il y avait quand même un truc qui me stressait, c'était la capacité à faire du résultat. Et vouloir faire des gros résultats, ça peut être un vrai moteur. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée dans ma capacité à performer dans mes études, à performer dans le handball. Simplement, on connaît tous des personnes, on le voit partout dans les films, on l'entend partout dans les médias, qui ont couru après des succès, des succès et des succès, mais qui, au bout du fil, se retrouvaient malheureuses. Tout simplement parce que sur le chemin, elles prenaient pas le temps de faire preuve de gratitude, comme je l'ai raconté précédemment, et d'apprécier en fait le processus. Et je me suis donc aperçue que quand la balance est trop déséquilibrée entre le process et le résultat, ça peut vraiment créer des états intérieurs qui sont pas forcément bons. Par exemple, si je suis trop axée sur le résultat, je prends pas le temps de profiter du process. Par contre, si je suis que sur le process et que j'ai pas d'objectif, en tout cas pour moi, ça fait que des fois je peux manquer un peu d'énergie le matin pour me lever parce que j'ai pas vraiment de direction vers laquelle aller. Donc je pense que ce qui m'a permis de retrouver un équilibre, c'est vraiment de maîtriser les opposés. C'est-à-dire d'avoir des objectifs clairs qui me donnent de l'énergie pour là, maintenant, tout de suite et me lever tous les matins même quand c'est dur, mais être capable à chaque instant de me dire ok, c'est peut-être un peu radical comme ça, mais si ma vie s'arrête là maintenant, j'ai fait de mon mieux, j'ai appris des choses aujourd'hui, j'ai rencontré des gens superbes, j'ai souri, j'ai parlé avec mon cœur et je suis contente parce que je suis pleinement présente à ma vie et c'est moi qui choisis. Du coup, on est parti pour la troisième et dernière leçon de cet épisode, qui est de garder en tête que peu importe ma capacité initiale à faire quelque chose, c'est-à-dire à méditer, à faire des roucoulettes, à partir en contre-attaque très vite, à courir très bien, peu importe ma capacité initiale à le faire, je peux être très nulle, je peux être excellente, je peux être la meilleure du monde à le faire. Eh ben, peu importe cette capacité de base, je peux toujours l'améliorer, je peux toujours grandir et je peux toujours apprendre plein de choses de ce process. Sur Instagram, je vous ai parlé d'un livre de Carol Dweck qui s'appelle Osez vraiment réussir, changer d'état d'esprit. Carol Dweck est spécialiste en psychologie sociale et du développement. Et dans ce livre, elle nous raconte comment un simple état d'esprit peut influencer de manière catégorique notre capacité à être performant dans notre carrière, mais aussi à être pleinement épanoui. Elle parle de deux types d'état d'esprit. Le premier, c'est l'état d'esprit fixe, dans lequel je pense j'ai été pendant très très longtemps. Souvent, les personnes avec cet état d'esprit-là considèrent qu'elles sont ce qu'elles font Et encore une fois, donc si elles ratent ce qu'elles font, alors elles ratent ce qu'elles sont. Et ça, c'est quelque chose d'assez stressant et anxiogène. Et en fait, par la peur de rater ce qu'elles sont, en fait, de rater à démontrer qu'elles sont des personnes avec de la capacité, elles vont avoir peut-être peur de l'échec, peur de la critique, avoir beaucoup de mal en fait à aller chercher des feedbacks, parce que aller chercher des feedbacks, c'est faire preuve de vulnérabilité et montrer en fait que c'est dur et que le process n'est pas évident. Et souvent, pour ces personnes-là, l'effort peut être quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Alors, pour moi, l'effort, ce n'était pas quelque chose de difficile, parce que finalement, travailler, c'est ce que j'avais toujours fait et c'est ce que implique de manière assez directe le sport de haut niveau. Mais effectivement, je crois que j'avais beaucoup de mal, en fait, avec le fait d'aller rechercher des feedbacks. Moi, vraiment, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de mal, en fait, avec les entraîneurs qui me disaient « Si je fais une remarque sur ton jeu, c'est pour que tu progresses. Ce n'est pas à la personne que je m'adresse, mais à la joueuse. » Et pour moi, ça ne voulait vraiment rien dire. J'avais l'impression qu'en fait, l'entraîneur en face de moi attendait que je sois schizophrène et que je me coupe en deux pour pouvoir mieux réceptionner en fait ses remarques. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'effectivement, ça correspond vraiment à un état d'esprit fixe. C'est que je me sentais attaquée en tant que personne là où quelqu'un me faisait juste un feedback. Mais ça correspondait vraiment à la manière dont je m'étais construite et dont j'avais été éduquée d'une certaine manière au rôle des personnes référentes dans ma vie. Je ne les prenais pas du tout comme des personnes qui avaient plus d'expérience que moi et qui, du coup, avaient un savoir-faire que je n'avais pas et des connaissances que je n'avais pas pour pouvoir grandir grâce à ces personnes-là, mais plutôt comme des personnes qui étaient des juges. Et je pense que ça va un peu aussi avec le système scolaire dans lequel on grandit, quoi, parce que ce qui compte beaucoup, c'est les notes. Je vois que de plus en plus dans les écoles, les professeurs s'intéressent en fait aux compétences, ce que je trouve beaucoup plus pertinent. Et je vois que de plus en plus, quand même, on accompagne en fait les jeunes vers un état d'esprit de développement. En fait, dans l'état d'esprit de développement, ce qui compte vraiment, c'est la croissance. C'est-à-dire que pour les personnes avec cet état d'esprit-là, le véritable échec serait de ne plus se développer, de ne plus grandir en tant que personne. Parce que ces personnes-là considèrent que souvent, les échecs sont des opportunités pour être une meilleure personne, un meilleur joueur, une meilleure joueuse, si on parle de handballeur et de handballeuse. Et ça ne veut pas dire que pour ces personnes-là, les échecs ne sont pas des revers difficiles et douloureux. Ça veut juste dire que les échecs ne remettent pas en question leur personne, mais qu'ils les aident à continuer à avancer. C'est juste des personnes en fait, qui prennent tout de suite la responsabilité en fait, de leurs échecs, qui ne vont pas mettre la responsabilité sur leurs coéquipiers, sur l'environnement, sur la salle, sur le déplacement qui a été compliqué. C'est des personnes qui vont prendre la responsabilité totale de leur propre accomplissement et de leur propre croissance. Et pour le coup, je dois dire que c'est un état d'esprit auquel j'aspire beaucoup, mais c'est un état d'esprit dans lequel, je pense, il est très aisé de se plonger quand on est blessé. Même si c'est dommage de devoir passer par là, je crois que du fait de m'être rompu le ligament croisé du genou, j'ai été d'une certaine manière obligée de passer d'un état d'esprit fixe pour certaines choses à un état d'esprit de développement. Parce que dans cet état d'esprit, il y a une croyance qui est très forte, c'est de se dire, peu importe ton niveau de départ, tu peux toujours l'améliorer grâce à tes efforts. Et quand tu pars d'un lit d'hôpital où tu peux pas marcher et que tu te dis, bon, à la fin de l'année, je vais faire en sorte de pouvoir marcher, de courir correctement et de me retrouver sur un terrain. Et en fait, cet état d'esprit-là, il permet vraiment de vivre la blessure, je trouve, avec une certaine légèreté. En tout cas, moi, ça me permet de vivre cette blessure avec une certaine légèreté, de me dire que de toute manière, je sais que je vais progresser, je fais de mon mieux. Je laisse mon genou aller à son rythme, je me connecte à mes émotions, je suis présente à mon corps, je suis présente à tout ce qui se passe en moi. Je communique avec les personnes avec lesquelles je travaille, de telle sorte à pouvoir me reposer si j'en ai besoin. Et ce qui est vachement agréable là-dedans, c'est de constater les progrès. De voir qu'effectivement, quand tu fais des efforts tous les jours, alors tu atteins ton objectif. Et au fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, en appréciant chaque étape, chaque chose, c'est-à-dire chaque petit squat que j'ai fait ou chaque galère que j'ai eue à sauter pour la première fois sur un step ou chaque difficulté que j'ai eue à faire me permettent aujourd'hui de me dire « Ah, c'est trop cool, là, je peux marcher. » Et donc, en fait, dans l'état d'esprit de développement, la croissance et l'effort sont des valeurs absolues. Elles ne sont pas anxiogènes et elles ne signifient pas que l'on manque d'ambition. Le fait de profiter tellement de chaque chose, de chaque étape, le fait de toujours avoir en tête un objectif et d'essayer d'avancer vers cet objectif, même s'il n'est pas atteint, finalement toute l'énergie qu'on aura accumulée par le fait de l'avoir célébré à tous les instants nous procure une certaine félicité et un certain état de bien-être qui, pour moi, sont incommensurables. Et puis en plus, très souvent, on a de très très belles surprises quand on a cet état d'esprit-là. Et donc pour résumer, ayez le courage de vous construire une carrière sur mesure, indépendamment de ce que tu crois que les gens attendent de toi et pensent de toi. Ensuite, accepte qu'il y ait des impermanences dans la carrière. Tu vas te blesser, tu vas changer de club ou pas, tu vas être nulle, tu vas être forte. Simplement, accepte-le et puis continue d'avancer. Et enfin, pour pouvoir continuer d'avancer dans des conditions qui sont propices pour moi à l'épanouissement et vraiment à la croissance réelle, profonde et surtout pérenne, c'est de focaliser ton attention à la fois sur tes objectifs, parce que tes objectifs te donnent de l'énergie pour avancer chaque jour, mais aussi sur le process, parce que les objectifs peuvent ne pas être atteints. Par contre, le process, c'est ce qui nous rend fiers, ce qui nous permet de nous lever le matin avec la banane et de constater en fait qu'on progresse, qu'on avance et qu'on est vraiment en chemin. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment hâte de lire vos retours. Vous pouvez m'écrire par mail à onpaperspodcast@gmail.com. Je lis à chaque fois vos messages avec beaucoup de plaisir et c'est vachement enrichissant pour moi d'avoir vos retours là-dessus. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram à @onpapers et me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou l'application de votre choix. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de On Papers.